Radio Kapi. Oh, Kapi.
Une mission d'information du Parlement panafricain est en RDC depuis le début de cette semaine. C'est pour s'imprégner de la situation de la guerre dans le nord Kivu et l'Ituri. La première phase de la mission s'est clôturée hier à Kinshasa par des consultations des députés de la majorité, de ceux de l'opposition et par le réseau des organisations de la société civile. Une maladie inconnue a fait en quelques jours une centaine de morts dans la zone de santé de Panzi, province du Kwango. Selon le ministre provincial de la Santé, plus de 380 personnes présentant les symptômes de cette maladie sont enregistrées dans 7 des 30 aires de santé que compte cette zone. Le commissaire supérieur principal Mungu Akonkwa Moliki est l'invité de ce journal. Le commandant de la police en charge de la sécurité des déplacés dans les sites autour de Goma note une diminution des cas d'incidents sécuritaires dans les quartiers où habitent ces personnes déplacées de guerre. Bonsoir à tous. Crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Le Parlement panafricain a dépêché depuis le début de cette semaine une mission d'information pour s'imprégner de la situation de la guerre dans le nord Kivu et en Ituri. Cette délégation d'information du PAP, Parlement panafricain, a bouclé sa première phase de la mission hier mercredi par des consultations à Kinshasa, des députés de la majorité, de l'opposition et aussi du réseau des organisations de la société civile. Cette mission s'est rendue ce jeudi à Goma pour palper la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Michel Kifindangoy.
La délégation de l'opposition parlementaire conduite par Christian Mwando, reçue en premier, confirme à la mission d'information du Parlement panafricain l'agression de la RDC par le Rwanda. Christian Mwando.
Nous avons effectivement confirmé à cette délégation la guerre d'agression que nous subissons à l'Est et nous avons insisté sur la nécessité de la cohésion nationale pour faire face à cette agression.
La rencontre avec la majorité parlementaire conduite par le député Crispin Bindoulé s'est déroulée à huis clos. Eliezer Ntamboué nous en dévoile les grandes lignes.
La question des FDLR, c'est une fausse raison qu'ils avancent parce que le malheur qu'il a RDC, c'est le fait que nous soyons riches.
Reçu aussi par la mission parlementaire panafricaine, le réseau international Network for Social Protection Rights, qui compte plus d'une centaine d'organisations de la société civile, plaide pour la fin de la souffrance des Congolais. Eze Atum Kasumin.
Ça fait plus de 2 décennies que la population congolaise subit les injustices, les violences. Où est-ce qu'ils ont été tout ce temps? Il est temps de mutualiser nos efforts.
Cette délégation sera reçue ce jeudi par le président Vital Kamerhe avant de s'envoler pour Goma afin de palper de doigts les vraies réalités de la situation sécuritaire et humanitaire à l'est du pays.
Toujours en rapport avec l'est du pays, en plus bref, notez que les combats continuent entre les FARDC et les combattants du M23. Ce jeudi, ils se sont affrontés dans les villages de Migobwe, Kassé et Matembe, à quelques kilomètres de Kirumba, dans le sud du territoire de Lubero. Selon des sources de la société civile, des détonations d'armes lourdes sont entendues dans plusieurs villages situés le long de la route nationale numéro 2 entre Kirumba et Lubero Centre. La situation reste confuse sur les différentes lignes de front et une bombe est tombée à Kaote, un village proche de Kirumba, sans causer des dégâts. En ce qui concerne la sécurité des déplacés au nord Kivu, notez que l'absence de logistique, notamment pour ériger des barrières de contrôle, mais aussi l'absence d'armurerie pour consigner les armes, sont des difficultés que rencontre la police pour assurer la protection de ces personnes qui vivent dans les camps. C'est ce qu'a révélé ce jeudi à Radio Kapi le responsable de la PNC en charge de la protection des déplacés. Le commissaire supérieur principal Mungu Akonkwa Moliki explique aussi les efforts mis en place pour lutter contre l'insécurité dans et autour des sites. Il parle notamment de l'éloignement des positions de l'armée et de Wazalendo et du contrôle systématique des éléments armés qui viennent rendre visite à leurs familles. Cet officier de la police plaide toutefois pour un appui en renforcement de la capacité opérationnelle de la PNC sur ce point. Il est au micro de Sifa Maguru.
Il y a d'abord des mesures qui étaient initiées par l'autorité provinciale, seule d'appuyer l'opération Safisha Mouji, l'action qui se porte bien dans la ville de Goma comme dans les territoires de Nyiragongo. À part ça, il y a une formation. En fait, nous avons développé une approche de la sécurité communautaire. C'est-à-dire actuellement, la sécurité des sites n'est pas d'ici l'apanage de la police, mais la police les fait en collaboration avec un comité de surveillants. Le comité de surveillants, ce sont des volontaires qui collaborent avec les services de sécurité pour remonter les informations liées aux incidents sécuritaires. Et c'est là dans le cadre préventif. Ça se passe très bien, dans la mesure où c'est tous les chefs de bloc, ou bien la majorité des chefs de bloc, qui font partie de l'équipe de surveillance. Et cette équipe de surveillance travaille étroitement avec le commandant détaché pour la sécurisation des sites. Et cela nous permet d'être actualisés chaque fois qu'il y a des menaces sécuritaires.
Entre autres résultats, il salue la collaboration entre la police et la communauté locale qui a permis à ses services d'arrêter des présumés criminels et qui facilite également les patrouilles. Cette collaboration s'étend aussi à la justice militaire qui procède à la condamnation éventuelle des malfrats, précise-t-il. Deux éléments FARDC sont aux arrêts dans la ville d'Uvira, au sud Kivu. Les deux militaires en divagation ont été surpris en train de cambrioler une boutique. Coincés par les patrouilleurs, ces malfrats ont ouvert le feu sur l'équipe des patrouilles mixte police, armée, jeune vigile. Un jeune qui faisait partie de l'équipe des patrouilles a succombé dans la nuit du 30 novembre dernier. Les criminels présumés sont détenus au cachot du bureau de renseignement, secteur opérationnel Sokola de Sud, Sud Kivu. La société civile réclame l'ouverture d'un procès en flagrance. André Biadounia peint le tableau de la situation sécuritaire de ces derniers jours dans la ville d'Uvira. Ses propos sont recueillis par Jean Kassami.
La dernière quinzaine du mois de novembre a été maillée par quelques cas d'insécurité, de vols à main armée. Il est de même pour ce début du mois de décembre, de vols à main armée ci et là dans différents quartiers de la ville d'Uvira. Mais également, il faut signaler des cas de braquage qui se font sur les différentes artères de la ville d'Uvira. Des vols de téléphones, les vols d'argent. Il y a même des coups de feu tirés par les éléments FARDC ci et là dans la ville d'Uvira. Et le dernier cas en date est celui du 30 novembre, où deux éléments militaires étaient en train de voler des téléphones et de l'argent dans des kiosques. Et les jeunes Bazalendo que nous appelons Balala Rondo, les jeunes vigiles qui travaillent de mèche avec les FARDC, les policiers dans des patrouilles, ont intercepté deux militaires et ils les ont ravis des armes. Malheureusement, un parmi les deux militaires avait tiré sur un jeune vigile. Nous, on pensait que l'auditorat militaire pouvait organiser un procès en flagrance contre ces deux éléments FARDC pour que ce procès puisse servir de procès pédagogique.
Réactiver les mécanismes de consultation entre le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, les FARDC et la police dans le cadre de violations des droits humains, c'est l'objet de l'échange hier à Kalemie entre le directeur du BCNUDH et le commandant de la 22e brigade des FARDC. D'après Patrice Vahard, il y a eu baisse d'intensité de la collaboration entre le Bureau des droits de l'homme et les forces de sécurité dans la province du Tanganyika après le départ de la MONUSCO. Il précise que l'objectif de cette collaboration est la promotion et la protection des droits humains. Patrice Vahard, directeur du BCNUDH, est au micro de Paula Munanga.
Nous avons échangé sur la réactivation des mécanismes de consultation que nous avions avec la FARDC et la PNC, qu'on appelle le comité de suivi des cas, qui nous donne l'opportunité justement d'échanger sur ce que nous avons observé. S'il y a des allégations d'abus ou de violations des droits humains qui sont attribuées au FARDC ou à la PNC, on donne l'opportunité à la police et à l'armée de donner sa version. Pour nous, c'est important, mais mieux de voir là où il y a des abus ou bien des violations avérées, quels sont les mécanismes interne à l'armée et à la police de corriger cela. Ça rassure les populations. Et j'ai été très ravi de voir que le général est d'avis que nous réactivions tout cela. Il y a eu une baisse d'intensité de cette collaboration après le départ définitif de la MONUSCO. Je lui ai donné l'assurance que je suis justement venu à Kalemi pour rassurer que non seulement l'ensemble de la famille des Nations Unies, mais en particulier le Bureau des droits de l'homme, va rester aux côtés des autorités de cette région.
Le nombre de personnes décédées suite à une maladie non encore identifiée dans la zone de santé de Panzi dans le Kwango est passé d'une soixantaine à une centaine en quelques jours. Selon le ministre provincial de la Santé, près de 382 personnes présentant les symptômes de cette maladie sont enregistrées dans 7 des 30 aires de santé que compte cette zone. Docteur Apollinaire Yumba Tiabakwao annonce l'arrivée de l'équipe d'experts en épidémiologie dépêchée par le gouvernement provincial à Panzi pour chercher à déterminer la nature de la maladie et tenter d'assurer la prise en charge des malades. Docteur Apollinaire Yumba Tiabakwao, ministre de la Santé du Kwango, et joint par Irène Bomaluzolo.
C'est qu'on avait rapporté du 10 au 25, c'était 67. Maintenant, quand l'équipe est descendue, à chemin faisant, ils ont trouvé dans un village, l'équipe médicale et la société civile ont rapporté 20 décès. Dans un autre village, qui n'était pas compté à la même période, ils ont trouvé 40 décès. Et les 4 qui se sont ajoutés aujourd'hui, ce qui fait 131 décès au jour d'aujourd'hui, voilà. L'équipe est toujours sur le terrain là à Panzi. Concrètement, ils sont en train de faire les prélèvements, de visiter, de faire la sensibilisation pour limiter les mouvements migratoires de la population, pour enseigner les mesures barrières. Ils ont remis un lot de médicaments que l'honorable Jonathan Bialoussoukawata a envoyé. Ils vont remonter les échantillons. Il y a un véhicule qui va quitter Panzi pour Kenge avec les échantillons. Et ces échantillons seront envoyés à l'INRB. Le niveau national, le ministère national nous a confirmé qu'une équipe descend pour aller rejoindre et renforcer l'équipe qui est déjà là pour la prise en charge des malades, pour le traitement des malades. Les cas actifs sont là.
Santé encore, en Ituri, les conditions de vie précaires dans lesquelles vivent des personnes déplacées dans les sites les exposent à des risques de contamination au VIH-Sida. Cette alerte est lancée par l'ONG Union Congolaise des Personnes Vivant avec le VIH, UCOP+. Pour cette organisation, de nombreux garçons et filles se livrent au sexe, souvent sans protection, ce qui, selon UCOP+, constitue un danger public pour la communauté. Le point avec Jean-Claude Loki-Dillet.
À cause du manque d'assistance humanitaire et des activités génératrices de revenus, des jeunes filles, principalement ces prostituées, en espérant gagner un peu d'argent, malheureusement, certaines ont des rapports sans protection. Jean-Claude Bieruhanga, assistant administratif de UCOP+, à Bounia.
Je prends l'exemple de Denise. En janvier, c'était 20 sites où on a trouvé 109 cas PVV dans 20 sites. Mais en novembre, c'était triplé de 109 à 337 cas. Pour vivre, on n'a pas l'accès facile à vivre. On doit se livrer à la promiscuité avec les risques d'attraper les VIH et les ISS, etc.
D'après ECO+, la sécurité qui sévit dans plusieurs coins de l'Ituri pousse les habitants vers des zones à forte prévalence du VIH-Sida, dont la ville de Bounia. Pour le responsable du programme national multisectoriel de lutte contre VIH-Sida, il est impérieux de mettre un dispositif de sensibilisation dans les sites déplacés pour limiter les dégâts. Le docteur Michel Mbouy.
La sensibilisation pose problème. L'appui de partenaires, que ce soit des agents des Nations Unies ou ONG internationales, pose problème. Et nous aussi, on est entrés vraiment avec les autorités. Comment est-ce qu'on peut faire pour organiser des dépistages, de la sensibilisation pour aider la population déplacée?
L'Ituri reste l'une des zones à fort taux de prévalence du VIH-Sida en RDC avec 5% de la population contaminée. C'est le PNMNS. Bounia, Jean-Claude Loki, Lille, Radio Capi.
Parlons environnement. Au Nord Kivu, la guerre a détruit tous les efforts de reboisement entrepris par les différents acteurs de cette province. D'importantes étendues de plantations dans les territoires de Nyiragongo et Masisi ont été détruites par cette guerre, en plus de la déforestation et l'abattage continu des arbres pour l'utilisation de la braise. C'est en tout cas l'état des lieux de l'écosystème du Nord Kivu que dresse le Fonds forestier national FFN à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'arbre ce jeudi 5 décembre. On écoute Alexandre Baraka Fungaho, chargé des aspects techniques au sein du Fonds forestier national Nord Kivu. Il est au micro de Denise Lukesso.
L'état des lieux, il est alarmant. La province du Nord Kivu, aujourd'hui avec la guerre, il y a le territoire de Nyiragongo par exemple. Toutes les plantations que nous avons eu à réaliser dans le territoire de Nyiragongo, et surtout à des entités touchées par la guerre, n'existent plus aujourd'hui. Quand on va par exemple à Masisi, le Fonds forestier national depuis 2010 subventionne les organisations de Masisi, finance les activités de reboisement dans les Masisi. Mais aujourd'hui, c'est alarmant du fait que Ces organisations viennent vers nous avec des rapports pour nous montrer le niveau de destruction des ennemis des écosystèmes forestiers. Lubero s'est touché aujourd'hui, Walikale une partie touchée, Rutshuru n'en parlons même pas. C'est presque toutes les entités prises par les ennemis, il y a la déforestation accrue. Donc le tableau, il est peint avec des chiffres totalement alarmants pour la province du Nord Kivu et surtout pour les écosystèmes forestiers.
Le président de l'intersyndicale de l'Office national des transports, ONATRA, a demandé hier au gouvernement de poursuivre le décaissement des fonds destinés à la relance de son entreprise. Armand Ossassé l'a dit dans un entretien accordé à Radio Okapi. Il a indiqué que ces fonds vont permettre à l'ONATRA de réhabiliter et d'équiper le chemin de fer en vue de faciliter le transport des personnes et des biens à Kinshasa et sur le tronçon Kinshasa-Matadi. Il est joint au téléphone par Blaise Ndongala Mayanda.
Dans les programmes d'urgence et sur les plans directeurs que nous avons, ces 26 millions de dollars va permettre à l'ONATRA de réhabiliter complètement la voie Kinshasa-Matadi équipée avec de nouveaux trains, aussi la vie de Kinshasa, parce que dans la vie de Kinshasa, il est difficile à partir de 9h de circuler. Mais nous avons la voie ferrée, axe Kitambo, Massina et puis Matete. Nous sollicitons l'implication et puis la volonté du gouvernement pour nous accompagner. Donc vous allez voir que d'après d'état, d'ailleurs nous on attendra dans 2 mois, vous ne verrez plus les embouteillages parce que la voie ferrée citerait dans la ville de Kinshasa et constaterait que vraiment nous allons accompagner la vision et exécuter les échecs du président de la République.
Actualité internationale.
6 corps ont été extraits en 2 jours de la mine désaffectée de Stilfontein en Afrique du Sud, où des centaines de mineurs clandestins seraient encore sous terre. Ce puits aurifère à 150 km au sud-ouest de Johannesburg est cerné depuis 4 semaines par les forces de l'ordre sud-africaines déterminées à déloger ces creuseurs clandestins qui s'y sont retranchés. Appelés Amazamas, ils sont venus pour la plupart des pays voisins. L'accès à l'eau et à la nourriture est extrêmement limité pour ces mineurs illégaux piégés sous terre depuis près d'un mois. Fin novembre, la justice sud-africaine a pourtant estimé que cette opération n'est pas inconstitutionnelle, mais face à la dégradation rapide de la situation sanitaire sur place, la haute cour du Gauteng a finalement autorisé le 1er décembre qu'une aide d'urgence parvienne aux mineurs. Sauf que, selon une association locale qui a saisi de nouveau la justice cette semaine, les forces de l'ordre rechigneraient à respecter cet ordre même si la survie des Amazamas est en jeu. Beaucoup de ces hommes seraient déjà trop faibles pour se hisser jusqu'à la sortie de la mine. La police, elle, met en cause des chefs des gangs lourdement armés présents dans les galeries et qui confisqueraient l'eau, la nourriture et les médicaments acheminés au compte-gouttes depuis la surface.
L'invité.
Le commandant de la police en charge de la sécurité des déplacés dans les sites autour de Goma note une diminution des cas d'incidents sécuritaires dans les quartiers où habitent les déplacés de guerre. Le commandant de la police nationale en charge de la protection des déplacés, le commissaire supérieur principal Mungu Akonkwa Moliki, rassure la population que des mesures sont prises par les autorités provinciales en vue de stopper la criminalité et de faire respecter le caractère inviolable des sites des personnes déplacées. Il est notre invité et il s'entretient avec Sifa Maguru.
Colonel Mungu Akonkwa Mokili, bonjour.
Bonjour, madame.
Il se pose un sérieux problème de sécurité dans les sites déplacés autour de Goma. Comme vous le savez, plusieurs incidents sécuritaires, les incidents de criminalité sont rapportés chaque jour dans les sites, notamment Lushagala, Rusayu et plusieurs autres. Comment expliquez-vous cette situation, cette recrudescence d'incidents sécuritaires dans les sites de déplacés?
Je vais vous rassurer qu'il y a une diminution importante des incidents de protection dans les sites, sauf que ce dernier temps, il y a une forte médiatisation des incidents isolés qui sont en train d'être commis dans les sites. Parce que dans les temps, on en a enregistré plus que ça, mais avec les efforts de l'autorité provinciale, en collaboration avec tous les services, mais aussi avec la communauté locale, nous sommes arrivés à mettre des stratégies sur pied. Nous avons réduit sensiblement les incidents dans les sites déplacés. Le résultat qu'il faut capitaliser, on a relevé une unité qui était tellement pointée du doigt, et après ça, l'autorité provinciale avait décidé de l'éloignement de toutes les unités unités de VDP qui étaient attachées aux côtés des sites. On les avait éloignées jusqu'à les approcher sur les lignes de front. Et donc, je dois dire que on n'a pas encore atteint vraiment la sécurité totale, mais avec le travail que nous avons fourni, il y a une bonne réduction des incidents sécuritaires.
Les hommes en armes, notamment les Wazalendo, les éléments incontrôlés des FARDC, ainsi que des bandits armés, seraient présents dans les sites de déplacés où vivent leurs familles, selon nos informations. Comment expliquez-vous cette présence d'hommes armés au milieu des déplacés en violation des normes humanitaires?
Ici, je dois avouer que dans le site, tout comme dans les environs, il est difficile de confirmer la présence de VDP et des FARDC. Dans la mesure où je venais de vous le dire, tous sont déjà éloignés. Non, ni à l'intérieur, ni aux environs, il n'y a pas de position de FARDC, ni de VDP. Sauf que nous devons reconnaître que parmi toutes les armées du monde, il y a toujours les indisciplinés. Entre eux, il nous arrive de les trouver les uns en destination vers le site. Et chaque fois qu'ils veulent y accéder, il y a des mesures policières qui sont installées au niveau de toutes les entrées. C'est-à-dire, tout homme armé doit être soumis à un exercice de consigner son arme à l'entrée et il peut effectuer sa visite familiale s'il a une famille à l'intérieur du site. Et aussitôt qu'il termine, on lui remet son arme et il rentre à son unité. Parmi eux, il y en a ceux-là qui obtempèrent à cette mesure policière, il y en a d'autres qui résistent. Et pour ceux-là qui résistent, il y a eu un renforcement de la police détachée pour la sécurisation des sites par la 34e région militaire, qui a aussi détaché une unité d'appui de la police militaire pour apporter un appui à la police. Dans le même cadre, nous collaborons significativement avec certains responsables de VDP. Cependant, nous ne pouvons pas dire que la mesure est exhaustive parce que il y a la logistique qui est encore... C'est-à-dire, il fallait qu'on arrive à ériger visiblement ces genres de barrières pour le contrôle des armes, mais aussi il a fallu que la police, au niveau des différentes entrées et des armureries, pour entreposer les armes laissées par les différents visiteurs armés qui veulent rendre visite à leur famille à l'intérieur des sites. Mais en attendant que cela n'arrive, la mesure se porte bien. Il est appuyé par les différents partenaires, y compris même la communauté locale. C'est parmi les stratégies qui nous ont amené à réduire les incidents de protection dans les sites. La même démarche est relayée par l'auditorat militaire. À l'heure où je vous parle, il y a une audience qui sera... ou qui est en train d'être organisé dans le sud de Boulengo. Vous êtes au courant qu'il y a un délinquant qui avait tiré sur un enfant de moins de 3 ans et la police avait mis la main sur lui. Et l'auditorat militaire est en train d'organiser déjà une audience foraine à Boulengo même, là où l'incident s'est produit. Ce qui fait que tous les services sont impliqués vraiment pour mettre fin à l'insécurité et protéger le déplacé dans tous les cas de déplacés.
Merci, colonel.
Merci beaucoup.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.